Ai, c'est Jésus, pompier de ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre étude Béréen l'explorateur. Nous explorons la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Toute parole. Donc c'est normal qu'un chrétien lise toute la Bible, puisqu'il est appelé à vivre de toute parole que son Seigneur a donnée. Donc nous avons promis de discuter de Deutéronome 24, le point sur le divorce. Donc on est arrivé à Deutéronome 24. Donc on va lire du verset 1 au verset 4. Deutéronome 24, verset 1 au verset 4.
Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'aura renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage.
Voilà, donc Là, il est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Maintenant, nous allons tout de suite aller dans le Nouveau Testament où le Seigneur en parle. Dans Matthieu 19, il dit que c'était pas la volonté expresse de Dieu, mais c'est parce que le cœur des hommes était dur. Donc nous lisons Matthieu 19 à partir du verset 1er, mais jusqu'au verset 10, hein, on peut aller jusqu'au verset 10.
Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
Voilà. Donc Jésus explique ce passage qu'on vient de lire dans Deutéronome. Il dit que Moïse a autorisé ça parce que les hommes avaient un cœur dur. Donc il explique bien les choses. Donc la Bible explique la Bible. Donc à l'origine, Dieu n'a jamais voulu de divorce ni de séparation. Il n'a jamais voulu cela. C'est la volonté parfaite de Dieu. Elle est exprimée dans Genèse 2, 24. mais à cause du cœur dur de l'homme. Et on l'avait dit précédemment dans d'autres passages bibliques, quand on avait étudié d'autres passages bibliques, c'est que le Seigneur, quand sa volonté parfaite n'est pas acceptée, il fait avec ce que l'homme peut présenter de bon. Et c'est surtout quand on avait parlé de l'histoire du roi, le Seigneur prévenait son peuple que quand vous prendrez un roi, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils aient un roi, Dieu a quand même prévu des mesures pour limiter les dégâts. Donc le Seigneur donne des mesures pour limiter les dégâts. Donc quand il a dit à Moïse de donner une lettre de divorce, c'est pour limiter les dégâts, pour que le désordre ne soit pas grand. D'ailleurs, c'est pourquoi là, il est question d'une femme qui a divorcé. Et on dit qu'elle n'a plus à retourner chez son mari, même si son deuxième mari meurt. C'est pour éviter des vies de désordre, de coupures, de recollage dans la saleté. Donc Dieu donne certaines directives afin de limiter des dégâts concernant le désordre que peut engendrer le non-respect de sa volonté. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Jésus donne la volonté parfaite du Seigneur dans Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de grâce de la dernière fois. Non, la question c'est quoi maintenant?
Qui parle?
Oui, non, donc on finit avec la question de... voilà.
Non, je voulais juste savoir, alors, quelle est la procédure à suivre, du coup, si cette femme-là veut refaire sa vie avec une autre personne?
Quelle femme?
La femme qui quitte son mari. Pas la femme qui quitte son mari, parce qu'on peut divorcer, mais c'est le mari qui demande le divorce. Et la femme n'a pas spécialement demandé le divorce, mais c'est le mari qui demande à divorcer. Mais cette femme-là, elle est libre, alors?
Non, il y a une autre condition qui nous est montrée dans 1 Corinthiens 7. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Il est écrit ceci à partir du verset 10. On va lire du verset 10 au verset 16.
1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, que sais-tu, homme, que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?
Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est dans le cas où on est marié à un incroyant, l'incroyant ne veut pas de nous, là, pour vivre en paix, donc on se sépare, puisqu'on ne peut pas obliger l'incroyant à vivre la parole de Dieu. Voilà. Nous, c'est selon la parole de Dieu que nous savons qu'on ne peut pas se séparer. Mais si on est avec un incroyant, on ne peut pas lui imposer cela. Donc, il est écrit clairement, dans ce cas-là, on n'est pas lié. Effectivement, si on n'est pas lié, donc on est libre. Donc, on peut se marier, puisqu'on n'est pas lié.
Mais s'ils étaient divorcés, ils peuvent se séparer si elle avait une personne non croyante. Si la chrétienne avait une personne non croyante.
Et le non croyant ne veut plus. Donc la chrétienne est libre. Voilà.
Mais si tous les deux étaient chrétiens et qu'ils se séparent, ils ne peuvent pas, en fait, chacun refaire sa vie à côté.
Non, ils doivent se réconcilier.
Mais s'ils n'arrivent pas.
Si, on peut toujours arriver. Dieu est tout-puissant pour nous réconcilier.
Oui. Ok. Autre question. On voit dans la Bible que c'est à l'homme de faire la lettre de divorce pour répudier sa femme. Mais dans le cas, alors, parce que parfois, même au milieu de nous, il y a des femmes qui, elles-mêmes, prennent cette décision de partir. Donc, elles ne sont pas dans la volonté de Dieu.
Non, on vient de le dire. Donc, ils doivent se réconcilier.
D'accord. Mais dans Matthieu et dans Deutéronome 24, là, on nous dit que c'est seulement s'il y a eu infidélité.
Voilà, s'il y a eu infidélité. Mais maintenant, c'est dans Matthieu qu'on nous dit en cas d'infidélité. Maintenant, dans Deutéronome, on dit quand il y a quelque chose d'honteux. On ne sait pas exactement c'est quoi quelque chose d'honteux. Voilà. Donc, il y a des gens qui se sont arrêtés à l'infidélité. D'autres vont plus loin que ça. Maintenant, chacun va donner son interprétation. Moi, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est le message du Seigneur Jésus. C'est Genèse 2, 24. Il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est ça le plus important à retenir. Tout le reste, là, c'est des accidents. Eh bien, ça se gérera quand ça viendra. Créer déjà des positions à l'avance. Bon, il y a des gens qui font déjà des calculs à l'avance. On va faire tel coup parce qu'il y a telle mesure. Non, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que le jour où tu te maries, c'est fini, c'est l'aller simple. Donc, il n'y a pas d'aller-retour, c'est l'aller simple. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il ne faut pas commencer déjà à imaginer les cas où ça ne tiendra pas comme ça. On veut pas, non, il n'y a pas de cas comme ça. Donc, quand ça arrive, c'est là qu'on y réfléchit. Tant que ce n'est pas arrivé, donc les gens qui ne sont pas encore mariés, réfléchissez cette fois avant de vous marier, parce que le jour où vous vous mariez, ne venez pas nous voir, oh mais oui, mais il sent mauvais ou quoi, je ne sais pas, ce n'est pas notre problème là. Ce n'est pas notre problème. Il fallait réfléchir cette fois avant de se marier. Oh, voilà, donc tout le reste, c'est toute la vie ensemble, toute la vie ensemble. Comme j'ai oublié le nom de ces oiseaux-là, ils sont tout le temps. Non, il y a des oiseaux, il y a une sorte de pigeon célèbre comme ça qui reste toujours ensemble. Bon, j'ai oublié le terme. Voilà, même des oiseaux, donc ils restent ensemble, j'ai oublié leur nom. Mais il y a deux oiseaux qui, dès qu'ils se sont mariés, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas faire moins bien que les oiseaux. Nous continuons, Deutéronome 24, à partir du verset 5.
Verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs. Les Lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors. Et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu.
Voilà, on va s'arrêter un peu là, donc voir combien Dieu est bon. En matière économique, il dit, bon, On peut prêter et prendre un gage, mais oui, mais respectons la personne à qui on prête. On reste dehors, on attend qu'il vienne nous amener le gage. Il dit, et en gage, tu ne dois jamais prendre les deux meules. Donc le meule, ça servait à moudre le blé, et c'est le blé qui était l'aliment principal pour fabriquer le pain. Donc si tu prends les deux meules en gage, parce que tu as prêté, mais à quelqu'un de l'argent, mais qu'est-ce que lui va manger chaque jour? Il dit non, on ne prend pas les deux meules, on ne prend même pas celle du dessus, parce que si tu prends une des meules, tu ne peux plus après moudre avec la seule qui reste. Donc tu ne prends pas, on ne fait pas ce genre d'acte. Donc on voit vraiment la miséricorde et la bonté de Dieu, même en matière économique. Il songeait à ce que les gens ne soient pas maltraités, les gens ne soient pas exploités. Et au verset 5, on voit aussi sa miséricorde. Quelqu'un vient de se marier, on ne l'engage pas pour une guerre, des choses comme ça, pendant une année. Donc le Seigneur prend soin de nous, il connaît les faiblesses de l'homme et il connaît aussi ce dont il a besoin, humainement parlant. Il n'est pas là pour nous imposer des choses qui nous dépassent. Ça rejoint un peu ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Verset 13, aucune tentation ne nous est survenue qui nous dépasse. Dieu donne toujours la force d'en sortir. Il connaît. Là, on voit bien que, sachant ce qu'est l'homme, il prévoit des choses. Il dit, fais attention à la lèpre, puisque la lèpre est une maladie contagieuse. Souvenez-vous de ce que j'avais fait à Marie quand elle avait attrapé la lèpre par punition. On l'avait mis à l'écart. C'est pour éviter la contagion. À l'époque, ces notions-là que nous, on sait aujourd'hui, n'étaient pas connues, les notions médicales. Elles n'étaient pas connues. C'est Dieu qui connaît tout, qui donnait ces instructions-là. C'est maintenant qu'on sait ça, et on dit bravo au Seigneur, parce que lui l'a dit depuis longtemps, avant que nous, on ait des notions scientifiques. Et on voit que Dieu prend soin physiquement de son peuple. Ce n'est pas juste des instructions pour aller adorer, prier, mais physiquement, il en prenait soin. Et donc, à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, il prend soin de nous. Oui.
Je fais un peu le retour. C'est une question Internet qui revient un petit peu en arrière. Pasteur, est-ce que c'est uniquement l'infidélité de la femme qui doit être prise en compte pour le divorce?
Le Nouveau Testament ne parle que de ça, que de l'infidélité. L'Ancien Testament nous parle de quelque chose d'honteux. Maintenant, moi je pense que restons dans ce que il est dit en précision dans le Nouveau Testament. C'est comme si ce qui est dit dans le Nouveau Testament précise ce qui est honteux dans l'Ancien Testament, c'est l'infidélité. Oui.
Oui, je crois que la sœur veut dire en fait, est-ce que c'est uniquement lorsque la femme est surprise dans l'infidélité? Parce que dans
Non, mais c'est l'inverse. Hein. Ce qu'on dit pour la femme, ça vaut pour l'homme. Hein. Voilà. Puisque dans le Nouveau Testament, Galates 3, 28, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes pareils devant les questions de vérité, de loi, de pureté, on est pareils. Donc nous continuons, Deutéronome 24, verset 14.
Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique.
Voilà, donc je te donne ce commandement de ne pas opprimer le mercenaire, c'est-à-dire un étranger qui est dans le pays, qui travaille, de ne pas l'opprimer, il faut le payer, il ne faut pas se dire c'est un étranger, il n'a pas de parents ici, je peux l'exploiter. Dieu dit non, ne fais pas ça parce qu'autrefois tu étais aussi esclave, tu n'aurais pas aimé qu'on te traite ainsi. Et on ne fera pas mourir, tu lui donneras son salaire et puis verser. 16, on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Voilà. De la même manière qu'il a dit dans Exode 20, 3 à 6, que la malédiction va jusqu'à la quatrième génération, c'est la malédiction, mais ce n'est pas la, ce n'est pas une, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est comme un nuage qui est sur toi, qui est prêt à tomber. La malédiction n'est pas active automatiquement. Elle est comme un nuage qui est prêt à tomber. Donc là, Dieu montre clairement qu'il ne va pas faire subir aux enfants les péchés de leurs parents. Mais la malédiction est là, par contre. C'est ça la différence. C'est que c'est comme un nuage qui est toujours là, qui est prêt à tomber si ces enfants-là désobéissent aussi à Dieu. Mais ils ne vont pas subir ça automatiquement, comme on a toujours pensé. C'est lié quelque part à leur propre relation avec Dieu qu'ils vont subir la malédiction ou pas. Donc là, c'est clair. C'est dit que les parents ne vont pas subir pour les enfants et vice-versa. Verset 17, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Il dit attention, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Donc il ne faut pas maltraiter les étrangers ni les orphelins. On voit même que même, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est cela, hein. Donc il y a un Français qui dernièrement avait été condamné parce qu'il avait aidé des immigrés. Il a porté l'affaire jusque en cours de cassation, je crois. Et là-bas, ils l'ont innocenté. Et à cause de lui, on va changer même la loi. Parce que la loi condamnait, quand tu aides quelqu'un qui est en situation irrégulière, la loi te condamnait. Cette fois-ci, ça va changer. La loi ne condamne plus le délit de quelqu'un qui est déjà sur le territoire. La loi ne condamne plus cela. Et la loi va condamner seulement si tu fais entrer de telles personnes sur le territoire. Mais tout ce qui concerne leur passage sur le territoire, l'aide que tu peux leur apporter, tu ne seras plus condamné pour cela. Donc c'est ce qu'on voit déjà ici dans la parole de Dieu. Dieu demande à ce qu'on traite bien les étrangers parce que son propre peuple a été étranger autrefois. Voilà. Et nous continuons, verset 19.
Verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique.
Amen, amen. Vraiment, on voit l'amour et la bonté de Dieu pour tout humain. Et ça rejoint ce qui est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, pasteur.
Oui, en ce qui concerne la loi et le traitement des étrangers, que dire ou comment nous comporter devant les réalités que nous vivons, notamment dans un pays comme la France, où les étrangers ne sont pas forcément bien accueillis? Voilà. Est-ce qu'un étranger, on doit le soutenir pour qu'il reste ici ou bien pour qu'il quitte parce qu'il n'est pas accepté?
Non, moi je pense que, comme face à tout humain, nous devons apporter l'évangile. Nous devons apporter l'évangile à l'étranger. Et si en apportant l'évangile, nous sommes amenés à l'aider, on l'aide. Mais le but principal, c'est d'apporter l'évangile. Ce n'est pas. Et l'évangile est synonyme aussi d'aide quand quelqu'un souffre. Donc on ne peut pas apporter l'évangile et fermer les yeux par rapport aux souffrances de la personne. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, c'est Dieu qui jugera si la personne doit rester ou doit s'en aller, mais nous, on doit aider en apportant l'évangile premièrement, et ensuite en aidant concrètement si la personne souffre.
D'accord. Donc, en quelque sorte, on ne se mêle pas de la question politique, administrative. nous on fait notre part sur un point de vue, je dirais, humain, et sur la question de par exemple, une personne qu'on menace d'expulser. Est-ce que je peux la garder chez moi ou pas?
Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire là. Aujourd'hui, ça va passer au Parlement, ça ne va plus être condamnable. Donc on ne condamnera que le fait de faire entrer un étranger. Mais aider un étranger en situation irrégulière ne sera plus un délit. Donc ça va passer, ça ne sera plus un problème. Voilà. Puisque les gens ont compris que nous... au fait, c'est la Cour constitutionnelle qui a considéré que la devise de la France, c'est égalité... Égalité quoi ? Fraternité quoi ? Et liberté. Donc ils considèrent que quand quelqu'un aide un autre humain, c'est de la fraternité. Donc dans notre devise, il y a le mot fraternité. Donc on ne peut pas empêcher les Français de manifester cette fraternité-là. Donc cette loi-là qui condamnait ce genre d'aide va être éliminée. Donc dorénavant, on pourra aider, sans que ce soit une infraction, un étranger qui est poursuivi. Du moment qu'il est sur le sol français, on peut l'aider sur le sol français, puisqu'on l'a trouvé là. Voilà. Et le Seigneur justifie cela. Bon, je ne sais pas si je dois dire justifier. Le Seigneur argumente en disant, parce que vous-même, vous avez été étranger. Tous les peuples du monde entier, à un moment donné, ont été sous une domination quelconque. C'est qu'on oublie, quand nous-mêmes, on devient maintenant des chefs, on oublie le passé. On oublie qu'autrefois, ben, nous aussi, que ce soit les Français, les Belges, ben, ils étaient sous domination allemande autrefois. Donc on oublie ça, qu'on a connu les mêmes galères et même pire. Et dernièrement, on nous a envoyé une photo des gens qui fuyaient des Français qui fuyaient la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont retrouvés en masse dans un port, soit de Casablanca, soit de Tunis, en masse pour entrer. Donc on oublie qu'il y a eu autrefois l'inverse. Donc c'est pourquoi Dieu dit, attention, n'oublie pas ton passé. Toi aussi autrefois tu étais étranger, donc ne traite pas mal les étrangers. Souviens-toi de ton passé. Nous continuons, Deutéronome 25.
Chapitre 25. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent. Et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne museleras point le bœuf quand il foulera le grain.
Voilà, donc là, Dieu humanise des choses qui existaient en extrême. Donc comme on a parlé de l'histoire du divorce, quand Dieu parle de la lettre du divorce, Jésus nous explique que c'était une tolérance. C'est des choses qui se pratiquaient dans le désordre. Dieu essaye d'humaniser ça en disant, donnez quand même une lettre de divorce, que les choses soient dans l'ordre. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qu'on frappe les gens, mais il humanise quelque chose qui est exagéré. C'est pourquoi il dit, ne donne pas, à partir de 40 coups, ne donne pas, parce que tu fais de ton frère quelqu'un qui va te haïr, parce qu'il ne va pas comprendre qu'on le frappe autant. Il faut juste donner la réprimande pour montrer que la personne a fauté, et non pas frapper pour frapper comme si c'était devenu un ver de terre. Parce que ton frère va te haïr, ça va créer la haine. Donc il humanise des comportements qui étaient excessifs, il met des limites à cela. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite qu'on frappe comme ça les gens. Et on connaît le langage, on a vu ça même à l'époque de Paul, l'histoire de 40 coups moins 1. Donc on s'arrêtait à 40 coups moins 1. Donc, quand on lit dans les Actes des Apôtres, quand on lit plutôt dans les Évangiles et les Épîtres, on voit quelqu'un aussi qui est fouetté 40 coups moins 1. Donc, ça veut dire 39. Pourquoi ? Les Romains ne disaient pas 39, ils disaient 40 moins 1. Voilà, donc c'est pourquoi On voit ici 40 coups moins 1. De peur que si l'on continue à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Voilà. Quatrième verset, tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc quelqu'un qui travaille, qui foule le grain, c'est le bœuf qui travaille cela. Ben, après, tu l'empêches de manger ce grain-là. Et l'apôtre Paul va utiliser ça pour parler des serviteurs de Dieu. Il leur dit, vous croyez que quand Dieu a dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui fout le grain, il considérait les animaux, il considérait nous, les gens qui travaillons dans son champ, nous mangerons de ce que nous faisons comme travail. Donc l'apôtre Paul l'utilise dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9:9, il applique ça aux serviteurs de Dieu. Donc nous continuons, verset 5.
Verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. »
Voilà encore une mesure toujours d'humanisation, des comportements, des réalités sociales. Une femme qui était sans homme à l'époque était une femme en souffrance, une femme sans protection, une femme sans soutien matériel. Et Dieu veille à ce qu'elle ait toujours un soutien. Donc on oblige le beau-frère à l'épouser. Oui.
Une question Internet. Pasteur, il y a en France en moyenne un divorce sur 3 mariages, ce qui est énorme. Finalement, le mariage, est-ce avant tout une guerre spirituelle qu'une union parfaite entre deux personnes?
Je pense que le mariage est une guerre spirituelle très très importante parce que le mariage préfigure le grand mariage. Quel grand mariage entre Dieu et son peuple? Une unité parfaite entre l'époux et l'épouse. Et cette préfiguration-là est combattue justement par le diable, en combattant le mariage de tous les jours qu'on vit au milieu de nous. Donc le diable, son vrai problème, c'est attaquer le grand mariage à venir entre Dieu et son peuple. Donc nous devons... oui, c'est une guerre spirituelle, c'est vrai. C'est ça qui explique cela aussi. Et puisque, vous savez, quand on a affaire à un Dieu parfait, un Dieu saint, et voir qu'il puisse supporter une épouse comme nous, des gens imparfaits comme on est, c'est un miracle. C'est pourquoi le mariage est un miracle, parce que c'est deux étrangers qui vont vivre ensemble et qui vont devoir se supporter. C'est un miracle, puisque Dieu aussi nous épouser. Ça va être un miracle, accepter des gens comme nous, comme son épouse, c'est un miracle. Et ça préfigure cela, le grand mariage à venir. Et c'est pourquoi le mariage est combattu. Le mariage aussi a comme travail, c'est de libérer chacun des mariés des dominations qui agissaient sur eux avant le mariage, parce que quand on devient une seule chair avec quelqu'un d'autre, il y a un autre organisme conforme Et cet organisme est moins vulnérable face aux attaques d'autrefois que le seul organisme que nous étions avant. C'est pourquoi le diable va toujours tout faire pour empêcher le mariage, parce que ça lui fait un autre organisme nouveau à combattre. Il doit trouver encore des stratégies, alors qu'avant, il maîtrisait presque chacune de ces personnes-là. Oui.
Oui, pasteur. Je voulais juste comprendre par rapport au verset 9, enfin, ou au verset d'avant, qui expliquait justement que son beau-frère récupérait la femme de son frère quand il est décédé. On est d'accord ? C'est ça, hein ?
Oui, oui.
Mais si lui, il avait une femme ?
Oui, oui, ça se rajoute.
D'accord. Donc, pourquoi je pose cette question ? Parce qu'aujourd'hui, dans les continents africains, cette pratique-là existe encore. Il y a des hommes qui récupèrent soit la femme du grand frère, du petit frère.
Oui, en dehors du christianisme. Ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens.
Oui, mais ils peuvent se baser de ce verset-là en disant que...
Mais pourquoi ils vont se baser puisqu'ils ne sont pas chrétiens ?
Oui, mais...
Donc nous, le jour où on les amène à Christ, nous allons leur montrer Genèse 2, 24, qui est la volonté parfaite de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est ce que Jésus explique. On leur montre la volonté parfaite. Tout ce qu'on est en train de lire, c'est la tolérance. Dieu qui fait avec. Les hommes ont un cœur dur. Il essaie de minimiser les dégâts. Voilà.
Oui, non, c'était juste pour revenir à dire, parce qu'il y a aussi des pasteurs qui ont plusieurs femmes, tout ça. Et ils
non, ce ne sont pas des pasteurs. Il faut dire qu'il y a des gens qui se prétendent pasteurs. Ils ne sont pas des pasteurs, c'est des escrocs. Voilà, mais ils se prétendent pasteurs. Parce que Dieu a dit dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Tout le reste qu'on lit là, Jésus nous le dit, on a lu ça dans Matthieu 19, c'était une tolérance, une humanisation des pratiques sauvages d'autrefois. Dieu limitait les dégâts jusqu'au jour où la vérité vienne. Moïse a amené la loi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Du moment que la vérité est venue par Jésus, ainsi que la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables d'accomplir la volonté parfaite de Dieu.
Donc, je voulais juste dire, c'est vrai qu'on est en train de lire ça, mais ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui qui doivent appliquer ces commandements.
Non, c'est lié à un contexte. Et Jésus nous l'explique dans Matthieu 19. Que Moïse avait laissé ça parce que les gens à l'époque avaient un cœur dur. Mais Ézéchiel 36 nous prédit que Dieu allait nous donner un cœur de chair et non un cœur de pierre. Il allait nous donner un cœur nouveau. Donc, maintenant, ayant un cœur nouveau par la nouvelle naissance, nous pouvons pratiquer la volonté parfaite de Dieu, Genèse 2, 24. Oui.
Pasteur, deux questions. La première question, quand on parle du mariage, on revient à Genèse 2, 24. Est-ce qu'à partir de ce verset-là, certaines personnes consentent à vivre ensemble en disant nous sommes une seule chair et c'est accepté par la famille, c'est accepté par la société, sans pour autant passer devant les autorités? Est-ce que dans cette situation, on est bien dans Genèse 2, 24?
Non, on n'est pas dans Genèse 2, 24. Ce n'est pas toi-même qui vas décider comme ça que tu es marié. Le mariage est un fait social. C'est la société qui t'approuve, qui te déclare marié. Donc on a vu même dans le cas qu'on vient de citer, il fallait partir chez les anciens pour juger l'affaire. Donc il y a des anciens, la société doit approuver qu'on est marié. Si la société ne l'approuve pas, mais soi-même on a décidé, on n'est pas encore marié. On est en train de mener sa vie.
Donc, quand tu parles de la société, tu parles quoi ? Des autorités.
Des autorités.
D'accord.
Les autorités ont fixé qui est des lois sur le mariage.
Deuxième question. Donc, les chrétiens peuvent alors hériter de la femme de leur frère ?
Je viens de répondre. Non, puisque nous, les chrétiens, on ne peut avoir qu'une seule femme. Ça, ce sont des commandements, des adaptations que le Seigneur a faites parce que l'homme allait au-delà. Donc le Seigneur limitait les dégâts en donnant ces instructions-là afin qu'il y ait un certain ordre en attendant que Jésus vienne avec la grâce, la vérité et la puissance du Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Nous continuons. Verset 11.
Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'éphas, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu.
Voilà l'histoire des poids. Les gens trafiquaient toujours dans le troc, parce qu'à l'époque, c'était l'époque du troc. Tu as du blé, moi, j'ai des tissus, on fait des échanges. Mais quand on fait ces échanges-là, on doit peser. Et chacun se promenait avec les poids. Et en général, les gens avaient des poids altérés, des poids diminués pour pouvoir escroquer les autres. Dieu dit que c'est une pratique abominable. Donc faire ça, c'est très très dangereux, c'est de l'escroquerie pure et dure, et c'est puni sévèrement. Oui.
Question internet encore sur le mariage. Bonsoir, un couple chrétien qui divorce et se remarie avec d'autres personnes, est-il considéré comme adultère? Et dans ce cas, il n'héritera pas du royaume des cieux?
Alors, quand on dit un couple chrétien, donc officiellement ils le sont toujours, donc je crois qu'ils sont dans l'adultère, donc il faut qu'ils arrêtent et il faut qu'ils se réconcilient.
Est-ce que leur salut est remis en cause?
Le salut, c'est Dieu seul qui connaît. Est-ce que à quel moment les personnes vont se repentir pour aller au ciel? Moi, je ne peux pas dire à l'avance concernant la vie de quelqu'un. Donc ce que je peux dire, c'est qu'ils sont dans le péché. Maintenant, est-ce que c'est fini pour leur salut? On ne sait pas, puisqu'ils peuvent se repentir. Donc seul Dieu sait.
D'accord, mais dans leur état, si la mort les trouve dans cet état-là,
je ne préfère pas répondre à cela. Je dis tout simplement que Dieu peut faire qu'ils se repentent 5 minutes avant. Donc moi, je dis tout simplement que c'est un péché. Et qu'ils se mettent en position de rater l'enlèvement. Ils peuvent rater l'enlèvement. Si le Seigneur revenait, ils vont rater l'enlèvement. Mais qu'ils ne vont pas aller au ciel, ça Dieu seul le sait. Il connaît seul l'avenir de chacun.
Bonjour pasteur. Par exemple, en Afrique, pour prendre en mariage une femme, tu dois passer par le mariage coutumier. Est-ce encore important de se présenter à la mairie pour officialiser l'union?
Bien sûr, parce que le mariage coutumier ne va pas inscrire ton nom sur la carte d'identité comme quoi tu es marié. C'est une histoire coutumière. Mais sur la carte d'identité, c'est la mairie qui va changer les choses. Donc c'est la mairie qui est prioritaire au regard du Seigneur. Donc il faut que la mairie te considère, t'approuve comme marié, et tu auras dans la société les avantages d'un homme et d'une femme mariés parce que tu es passé à la mairie, non pas parce que tu as fait un mariage coutumier.
Dernière question. Tout à l'heure, nous parlions des étrangers. Mais est-ce une mauvaise chose, les églises, communautarisme, congolaise, chinoise, portugaise ou autre?
Oui, c'est une mauvaise chose, parce que dans Apocalypse, Dieu veut que les églises soient... Dans Apocalypse, on voit que Dieu a amené les sauvés de toutes les nations. Et donc, quand on est... On se dénomme église avec une nationalité... On restreint l'action de Dieu dans l'espace où nous habitons. Or, le Seigneur dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il dit aussi dans Psaume 2, Demandez-moi les nations, je vous les donnerai en héritage. Donc la volonté de Dieu, c'est toutes les nations toujours, ce n'est pas une seule nation. Maintenant, si on se retrouve dans un pays, il est normal que dans ce pays-là, en majorité, ce soit les gens de ce pays-là. Mais si on est dans un pays et qu'on amène une dénomination d'un pays étranger, ce n'est pas bon. Deutéronome, chapitre 25-17.
Verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui se traînait les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point.
Voilà, là, de telles instructions sont parfois perçues comme étant dures, mais le Seigneur connaît l'avenir. Et le Seigneur, lui, connaissant l'avenir, étant la vérité, donne des avertissements toujours justes. Le Seigneur n'est pas sentimental. Tout en étant amour, il n'est pas sentimental. Il va considérer un ennemi comme un ennemi. Il ne va pas appeler un ennemi un ami. Il nous prévient, nous les humains. Nous les humains, on peut se faire avoir par des paroles sucrées, par des gestes de séduction. On peut se faire avoir et baisser la garde. Il dit, attention, Amalek vous a attaqué alors que vous étiez fatigué, vous étiez faible. Même plus tard, s'ils viennent vous séduire, n'acceptez pas, effacez Amalek. C'est des gens qui vous chercheront toujours des problèmes. Donc effacez Amalek de votre mémoire, parce que Dieu voit l'avenir, il peut vous faire tomber et vous créer des grands problèmes. Oui.
Bonsoir, pasteur. Sur le cas d'adultère, 1 Corinthiens 6, 9 dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Pardon?
Sur le cas d'adultère, 1 Corinthiens 6, 9 dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Ah bon? C'est seulement le cas d'adultère? Non, on va lire 1 Corinthiens 6, 9. Il y a adultère, il y a plein d'autres péchés.
Je crois qu'il fait référence à la question qu'on a posée tout à l'heure.
Ah oui, mais c'est Dieu. Il a bien répondu, c'est Dieu. Lui, il voulait que moi je dise. Donc moi je dis, donc s'il a trouvé la réponse par Dieu, gloire à Dieu. Dieu dit qu'ils n'iront pas au ciel.
Là, c'est une autre personne.
Ah, voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas moi de dire que quelqu'un ira en enfer. Moi, je dis que les gens qui pêchent comme ça ne sont pas, sont dans le péché. Maintenant, pour savoir qu'un tel ira en enfer, seul Dieu le sait. Mais je ne dis pas que ce qu'ils font est bien. C'est le péché. Et s'ils ne se repentent pas, ils ne sont pas sauvés. Mais s'ils se repentent, ils vont aller au ciel. La question n'est pas, parce qu'il faut comprendre. On parle de qui? Si on parle d'un chrétien qui est dans le péché et qui reconnaît son péché, mais Dieu peut lui accorder la repentance et il est sauvé. Donc on parle de quelqu'un de défini. Mais si on parle en général, on dit les gens qui commettent ces péchés-là et qui sont pour ces péchés-là, qui ne les considèrent pas comme des péchés, mais c'est des gens qui vont en enfer. Donc l'enfer sera beaucoup plus rempli que le paradis si on doit suivre même la Bible. La question est que demander à un homme comme moi de juger un autre homme qu'il ira en enfer ou pas, moi je ne peux pas le dire. Maintenant, dire d'une manière globale, les gens qui commettent ces péchés-là iront en enfer, ça je peux le dire. Mais parler d'un homme défini, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas s'il va se repentir et Dieu va le sauver.
Pasteur, que veut dire effacer la mémoire?
Que veut dire effacer la mémoire? Donc, ne plus considérer ces gens-là comme s'ils existaient. Parce que si vous les considérez comme s'ils existaient, tôt ou tard, vous allez chercher des rapprochements. Tôt ou tard, vous allez chercher des relations. Il dit non, oubliez même donc qu'ils existent. Pour éviter qu'il soit un piège pour vous un jour ou l'autre. C'est dans ce sens-là.
Dans le cas d'Amalek et donc des ennemis d'Israël, et comment cela s'applique aujourd'hui envers nos ennemis.
Le catholicisme, par exemple.
En sachant que le Seigneur a dit « Faites du bien à ceux qui vous font du mal ».
Oui, ça s'applique, par exemple, dans le catholicisme. Dieu nous a fait quitter le catholicisme, où on adorait les statues, on adorait les idoles, on adorait le pape. Maintenant, on quitte. Dieu nous demande de ne plus nous souvenir. Donc, ça n'existe plus. Donc, un jour, ils vont chercher à nous rattraper en disant l'œcuménisme, on croit en la même Bible. On doit appliquer ce commandement-là qui dit ne te souviens même plus. Le branhamisme, ne te souviens même plus. Parce que c'est des religions que le diable a inspirées. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on doit faire attention. Donc, on doit prendre 2 Corinthiens 6, 14, qu'il n'y ait rien. On va lire ça, 2 Corinthiens 6, 14. Qu'il n'y ait rien, qu'on ne s'en souvienne pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui disent « Ah, mais un tel chanteur branhamiste, il chante bien. » Non, mais il ne faut pas suivre. Dans son chant, il y a des pièges. Comme un célèbre chanteur branhamiste, il a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu, ça vient de la voûte céleste, c'est plus fort que les Écritures. Il y avait le piège. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Jamais. Les Écritures sont plus fortes que tout. L'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. L'inspiration doit se soumettre aux Écritures. Mais dans ce chant-là, il y avait le piège. Tout le monde écoutait ce chant-là comme si c'était un chant de mariage. Donc nous allons lire 2 Corinthiens 6, 14 à 19. Oui.
Toujours dans la continuité de la question, pasteur, cela s'applique à des doctrines, mais pas à des hommes, point d'interrogation.
Bon, déjà, lisons quand même 2 Corinthiens 6, 14 à 19.
2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Voilà. Séparez-vous, dit le Seigneur. Donc on ne doit jamais oublier ça, que on était autrefois là-bas, on sait ce qu'on faisait. Maintenant qu'on est dans la vérité, on va vouloir nous dire non, on est tous frères. Ah non, nous on était là-bas, sinon on serait resté. Donc on est sorti de là-bas et on va chercher. Non, donc on doit être radical. Oui, maintenant la question, est-ce que ça concerne les doctrines en grande partie, mais ça peut concerner aussi des institutions humaines, par exemple, comme le pape, c'est une institution, c'est un individu, mais c'est en même temps une institution, ça peut concerner de telles personnes.
Donc ça peut concerner aussi des hommes alors?
Oui, quand c'est des hommes qui représentent des institutions doctrinales.
D'accord. Oui. Pasteur, est-ce que c'est ce qu'on appelle anathème, comme Paul a dit, qu'il soit déclaré comme anathème?
Qu'il soit anathème, ça veut dire maudit. Donc c'est ça, donc oublie-le de ta mémoire. C'est la même chose à peu près.
D'accord.
Voilà.
Une autre question internet, pasteur. Donc si je comprends bien, pasteur, en ce qui concerne le mariage, si on s'en tient à l'histoire de Jacob, on voit bien que sa vraie femme était Léa, l'aînée, et non Rachel, vu qu'elle était la première à s'unir à lui.
Pardon. Dieu a accepté les deux femmes. C'est pas moi qui vais polémiquer là-dessus. Donc moi, je sais que Dieu a accepté les deux femmes. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu accepte tout ça. Il dit même que tu prends la femme de ton frère qui meurt. Donc ce n'est pas moi qui veux dire qui est la vraie. Donc Dieu les accepte tous à l'époque. C'est aujourd'hui que Dieu n'accepte plus cela. Voilà. Puisque nous avons l'Esprit Saint capable de nous aider à faire la volonté parfaite du Seigneur. Donc nous continuons.
Chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. » Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion de mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. » Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit.
Voilà une loi, la loi des prémices, la loi sur les premiers produits. Donc quand on a les premiers produits, on apporte ça à Dieu. Voilà ce que Dieu dit, qu'on se souvienne d'où nous venons. Avant d'avoir ce qu'on a, on n'avait rien du tout. C'est Dieu qui a permis, qui nous a protégés, qui nous a donné la vie, qui a permis les circonstances pour qu'on ait ce qu'on a. Il dit, donc d'abord, il faut penser à lui, lui apporter les prémices de tous ses produits. Et ensuite, penser aussi aux Lévites, donc aux serviteurs de Dieu, aux orphelins et à la veuve. Donc on voit comment Dieu pense à tout le monde. Il pense à tout le monde. Les Lévites n'avaient pas de travail comme tout le monde. Donc ils vivaient de Dieu lui-même. Alors c'était aux autres de penser aux Lévites. Ça nous rappelle ce qui est dit dans Galates 6:6, que celui qui est enseigné partage ses biens avec celui qui enseigne. Donc c'est la même logique. Et c'est la même logique que l'on voit dans le Nouveau Testament, quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc une vraie église, les vrais chrétiens devront toujours avoir un côté des actions de bienfaisance auprès des pauvres, auprès des gens qui souffrent. Parce que là, on dit donc il faudra mettre la dîme tous les 3 ans pour le Lévite, pour l'orphelin et la veuve. Donc une vraie église, des vrais chrétiens devront toujours avoir un service en faveur des veuves, en faveur des gens qui ont des besoins naturels que la société ne leur donne pas. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste ainsi. Dieu est invisible, mais c'est les chrétiens qui doivent manifester son amour. Donc le Saint-Esprit conduira chaque groupe de chrétiens à avoir de telles actions de bienfaisance. Il manifeste ainsi l'amour de Dieu envers les gens qui sont défavorisés. Donc c'est très important. Il dit, ce sont des lois importantes à observer. Donc nous devons continuer à les observer jusqu'aujourd'hui. Donc nous prenons Deutéronome chapitre 27. Oui.
Pasteur, justement, lorsque le Seigneur nous demande de penser aux serviteurs de Dieu, que dire des offrandes spéciales pour le pasteur?
Comment dire? Je pense que le Seigneur nous le dit, c'est à nous de pratiquer. Je ne suis pas d'accord avec le système de flatterie où on veut faire une offrande spéciale pour le pasteur. Ça donne l'impression que Dieu est incapable de s'occuper de lui. Voilà, donc Dieu est capable de s'occuper de ses serviteurs, mais quand il demande à celui qui a enseigné de le faire, il le dit pour la bénédiction de la personne. Il ne dit pas parce que lui, il est incapable. Les gens comprennent mal les choses. Jamais Dieu ne se plaindra de la pauvreté de son serviteur parce que nous, on n'a pas donné, non. Dieu est tout puissant pour s'occuper de ses serviteurs. Mais pour la bénédiction des autres, il leur dit, pour que vous soyez bénis, faites-le. Ce n'est pas pour que l'autre ne manque de rien, parce que Dieu, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est tout puissant pour s'occuper. C'est pour une bénédiction des autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit même. Il dit quelque part, il dit, mais je bénis Dieu pour ce que vous m'avez envoyé. Ce n'est pas parce que moi, j'ai besoin terriblement de quoi que ce soit. C'est pour votre propre bénédiction que je me réjouis. En m'envoyant ce que vous m'avez envoyé, Dieu vous bénira. Donc, c'est pour la bénédiction des autres. Mais ce n'est pas que Dieu soit incapable de s'occuper de ses serviteurs. Donc, maintenant, quand on fait offrande comme ça, publique, offrande pour le pasteur, c'est comme si Dieu était incapable. Donc, on doit aider l'autre. Non. Dieu veut parler au cœur de chacun à travers sa parole, que chacun comprenne que ça fait partie des obligations divines afin que la bénédiction circule sur tout le monde. Oui.
Pasteur, dans ce cas, moi j'aimerais savoir comment répondre aux personnes qui justement utilisent ce thème de bénédiction pour inciter les membres des assemblées à faire des offrandes pour ces serviteurs-là et les considérer comme étant des semences pour justement aussi cette bénédiction.
Comment répondre à cela en leur disant que dans la Bible, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Ça passait au travers de l'enseignement. Ça ne passait pas au travers des campagnes de bénédiction aux serviteurs de Dieu. Jésus n'a jamais fait une campagne pour qu'on lui donne de l'argent. Il a enseigné quand la veuve a donné 2 pièces. Il a dit, voilà, cette veuve a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qui était pour lui. Voilà, donc c'est Jésus parle de ça en termes d'enseignement, non pas en termes d'obligation. Et en termes aussi de puissance, quand Jésus envoie ses serviteurs, il a dit, là où vous allez entrer, mangez de ce qu'on vous donnera. Donc il confirme sa puissance à convaincre les gens à donner. Donc en termes, Jésus en a parlé en termes de puissance et en termes d'enseignement. Les apôtres aussi pareil, ils en ont parlé en termes de puissance et d'enseignement. Ils n'ont jamais parlé de cela en termes de campagne, dire aux gens, faites ceci, faites cela. Non, ils donnaient l'enseignement là-dessus. Comme pour tous les enseignements, celui qui va pratiquer va être béni, celui qui ne pratique pas, il n'y aura jamais une imposition, une pression de Dieu à pratiquer. Ils donnent l'enseignement. Que celui qui a des oreilles entende, c'est ce que le Seigneur a toujours fait. Donc il faut leur dire ça. Dieu n'a jamais fait de campagne de ce genre-là. C'est passé toujours au travers de l'enseignement et à travers une logique de puissance.
Ok, voilà. Merci.
Deutéronome 27.
Deutéronome 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen.
Amen. Voilà, donc ils sont proches d'entrer en terre promise. Vous savez, comme quand on prépare le bac, on prépare les examens, on fait des fiches, on fait des petits résumés, c'est ce que Moïse est en train de leur faire là. Donc c'est des fiches, des résumés de la pensée divine, de la loi divine. C'est dans ce Deutéronome 27, on a un résumé de ce qu'il ne faut pas faire, de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Il y a le résumé, afin que le peuple soit béni, que le peuple ne soit pas maudit. Dieu est conscient que si on ne respecte pas sa parole, ça finira mal. Comme un père aimant, comme un créateur aimant, il veille à ce que son peuple respecte. Donc il leur fait maintenant des fiches. Vous allez entrer, voilà un résumé de ce qu'il ne faut pas faire. Et à la fin, il y a le résumé des résumés, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Donc, le résumé des résumés, c'est-à-dire, veillez à lire toute la loi toujours, parce que c'est ça qui va vous maintenir hors, loin de la malédiction. Voilà ce que le Seigneur fait. Vraiment, c'est important de ne pas mépriser la parole de Dieu, de ne pas mépriser la loi de Dieu. Elle est salutaire, elle est... Et ça me rappelle quand Josias, le roi, ils ont découvert la loi, les écritures qui étaient cachées quelque part dans le temple. Quand ils ont découvert ça, ils ont lu, il a déchiré ses vêtements parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait, il pratiquait, était contraire aux écritures. Pourtant, à leur époque, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs et il y avait aussi il y avait le roi. Mais ces trois personnes ouintes étaient elle-même aussi en dehors de la vérité. Donc c'est les Écritures qui ont restauré la vérité du temps de Josias au point qu'il a déchiré ses vêtements tellement il était frappé de la contradiction qu'il y avait entre leurs pratiques et les Écritures. Et il a dit, c'est pourquoi tous les malheurs nous sont arrivés. Et lui-même, il a compris, il a dit, les malheurs nous sont arrivés à cause de cela. Vraiment, le Seigneur insiste, restons sur sa parole, soyons simples. Ne pensons pas être plus intelligents plus que Dieu lui-même. Nous l'avons trouvé dans l'univers. Respectons l'ordre d'arrivée. C'est Dieu qui est arrivé avant nous. On l'a trouvé. Ce n'est pas nous qui allons le changer. Les Écritures nous donnent ces conseils-là. Obéissons et nous verrons la bénédiction. Donc là, c'était les malédictions. Maintenant, nous allons lire Deutéronome 28, conditions de la bénédiction.
Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir.
Voilà les bénédictions en grande quantité, mais la condition est là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voilà la condition. Il y a des gens qui disent, nous ne serons pas les derniers, nous serons les premiers, mais oui, mais est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Oui.
Question Internet. Le pasteur Moshe dit que Dieu humanisait toutes ces lois par amour pour amoindrir les sanctions.
Pour amoindrir les dégâts.
D'accord. Mais alors, comment savoir et distinguer quand nous devons nous penser que Dieu humanise ou alors qu'il faut appliquer à la lettre?
Comment savoir? C'est par les écrits du Nouveau Testament qui complètent ce qui n'est pas dit clairement. Donc, j'ai donné un exemple avec l'histoire du divorce. Le Seigneur a complété dans Matthieu 19, il a dit, si Moïse avait autorisé, c'était pas une préconisation du Seigneur, mais c'était une humanisation du Seigneur, parce que vos cœurs étaient durs. Vous faisiez déjà des choses pires, alors Dieu a limité le dégât par Moïse, en vous demandant de faire quand même une lettre de divorce, de ne pas rejeter la femme comme ça, comme si c'était de la poubelle, mais de faire une lettre de divorce. Donc il y a des précisions. Le Nouveau Testament précise ce genre de choses. À partir de ça, nous pouvons savoir que là, c'est de l'humanisation de Dieu, parce que nous connaissons la volonté. En fait, par le Nouveau Testament, nous connaissons la volonté parfaite de Dieu. C'est écrit dans Jean 1, 17. Moïse a amené la loi. Jésus a apporté la grâce et la vérité. Donc toute la vérité sur Dieu, c'est Jésus qui l'apporte. De sorte que maintenant que nous savons qui est Dieu vraiment, nous pouvons maintenant bien peser les lois de l'Ancien Testament, comprendre Allah. Il a dit, parce que c'était dans tel contexte, il a dit, donc on peut bien analyser parce que nous connaissons maintenant Dieu. Par son Fils, nous le connaissons clairement, nous connaissons ses intentions, nous connaissons sa lumière, nous connaissons son amour, nous connaissons sa droiture. Et à partir de ça, quand nous lisons maintenant l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il voulait réellement. Bientôt, nous parlerons par exemple du sabbat. On va en parler un dimanche. C'est Jésus qui nous éclaire sur le sabbat, alors que dans l'Ancien Testament, ça reste comme une loi. Et il y a une confusion entre sabbat et sept, ce qui n'a rien à voir. Le sabbat, ça vient d'un mot plutôt qui veut dire repos, qui ne veut pas dire sept. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs vont rester comme scotchés sur le septième jour, mais le mot sabbat ne veut pas dire septième, il veut dire sept, il veut dire repos. Et le Nouveau Testament va nous le donner, clairement nous expliquer tout ça. Jésus va dire qu'il est le maître du sabbat, il va nous expliquer les choses. Donc c'est ça. Donc comment on peut savoir? C'est par la vérité que Jésus nous apporte. Ça peut nous éclairer pour savoir ça. C'était des commandements de tolérance, et tel autre c'était des commandements de séparation, de protection, et ainsi de suite. Oui.
D'accord, mais c'est dans le même sens, hein, je la pose quand même. Dans Proverbe, il est écrit de corriger son enfant avec un bâton. Mais le Nouveau Testament ne dit rien là-dessus. Le Christ ainsi que les disciples n'ont pas fait usage de châtiment physique. Qu'en pensez-vous?
Le Nouveau Testament ne dit rien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens 6 alors. Qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens 6? Bon, on dit « enfants, obéissez », on parle plus aux enfants, on ne donne pas de règles aux parents sur la violence, mais on ne dit pas non plus que c'est mauvais. On ne dit pas non plus que c'est mauvais. Moi, je pense que chacun suive le Seigneur tel qu'il est conduit, mais l'enfant doit être corrigé. Donc la parole de Dieu est la vérité. Donc maintenant, ce qu'on venait de dire sur le divorce n'est pas une raison pour penser que c'est la loi, le Seigneur Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, pas un seul i de la loi ne passera. Donc c'est la loi de Dieu, nous devons la comprendre selon la logique du Nouveau Testament, mais ça n'efface pas la loi de Dieu. Donc je ne pense pas que ça soit mauvais de corriger physiquement un enfant, pour autant que ce n'est pas fait dans une logique de colère. Mais si ça fait dans une logique que l'enfant comprenne ce qui est mauvais et ce qui est bon, moi je ne vois pas de mal là-dessus. Je crois que c'est que le Nouveau Testament nous reprocherait si nous le faisons parce que nous sommes dépités, nous sommes en colère, c'est ça qui n'est pas bon. Mais si c'est pour l'intérêt de l'enfant, c'est une bonne chose, et sans dépasser non plus, sans que ça devienne quelque chose qui avilisse l'enfant, comme on a vu par rapport au coup de fouet, les 40-1 là, quelque chose qui va créer la haine. Non, voilà, c'est quelque chose qui permet à l'enfant de savoir ce qui est mauvais et ce qui est bon. Voilà, donc nous clôturons avec cette partie là parce que je vois les jeunes frères et sœurs avec qui nous sommes en retraite là, hyper fatigués dans le jeûne. Donc on va clôturer là et comprenons, on va détailler, parler des bénédictions le mardi prochain. Mais nous sommes heureux de voir la liste de bénédictions que Dieu prévoit. La prière que nous allons faire, c'est dire: Seigneur, aide-moi à aimer ta parole et à obéir à ta parole. Je veux être dans la bénédiction, quoi. Prions le Seigneur. Ô Éternel des armées, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous aide à faire ta volonté. Seigneur, Deutéronome 28 nous donne tant de bénédictions heureuses, mais à condition qu'on obéisse à ta parole, Seigneur. Alors, aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à aimer ta parole, à ne pas la considérer comme un fardeau, comme quelque chose qui veut nous enlever la joie ou qui veut nous créer des problèmes, mais à considérer cela comme la source de nos bénédictions. Comme c'est écrit dans Josué 1:8, Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, afin de vivre selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises, Seigneur. Qu'on prenne la parole comme cela, comme un tremplin pour réussir dans toutes nos entreprises, et non pas comme un rabat-joie, quelque chose qui vient nous gâter le plaisir. Non, Seigneur, ta parole est la vie, ta parole nous donne la véritable bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, à l'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité et ta gloire au milieu de nous. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.
Jésus, pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.